Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mercredi 17 Shahrivar 1400 du calendrier iranien, 8 septembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les événements de l'Afghanistan, le général Rouhani met en garde contre un complot américain à l'encontre de la République islamique d'Iran. L'Iran veut un Afghanistan dépourvu de guerre et de terrorisme, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Téhéran exhorte l'Agence internationale de l'énergie atomique à faire preuve de neutralité et de professionnalisme. Et l'armée syrienne prend le contrôle d'une zone stratégique à Deraa. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré dans un entretien téléphonique avec l'ancien président afghan Hamid Karzai que l'Iran veut un Afghanistan exempt de guerre et de terrorisme. Hossein Amir Abdollahian a mis l'accent sur la politique de principe de Téhéran basée sur le dialogue entre tous les groupes afghans dans le but de former un gouvernement inclusif qui reflète la composition ethnique et démographique du pays. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné « Les États-Unis sont responsables des troubles actuels en Afghanistan au cours des deux dernières décennies. C'est la volonté du peuple afghan qui doit mettre fin à cette situation. » L'ancien président afghan, Hamid Karzai, a déclaré pour sa part que les chefs afghans font de leur mieux pour surmonter cette situation et l'objectif principal serait de réaliser la volonté du peuple afghan. Le représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales basées à Vienne, Kazem Gharibabadi, a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique doit maintenir sa neutralité et son professionnalisme. Il a affirmé que toutes les activités nucléaires de l'Iran, y compris l'enrichissement de l'uranium à divers niveaux, sont menées dans le cadre des droits nucléaires de l'Iran, et ce, en vertu du traité de non-prolifération nucléaire. Il a ajouté que puisque les autres parties n'ont pas rempli leurs obligations dans le cadre de l'accord nucléaire et que la politique américaine consistant à imposer des sanctions illégales et unilatérales à l'Iran se poursuit, personne ne peut faire pression sur Téhéran pour qu'il mette fin à ses activités nucléaires. Concernant le rapport du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur certaines questions de garantie restantes, Qarib Abadi a noté qu'il n'y avait que 4 questions de garantie entre l'Iran et l'AIEA, qui remontent à environ 2 décennies, et que l'Iran a jusqu'à présent traité de manière appropriée et constructive avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'armée syrienne a pris le contrôle d'une zone stratégique dans la ville de Deraa, dans le sud-ouest du pays, à la suite d'un cessez-le-feu négocié par la Russie avec des groupes terroristes se trouvant dans cette région. Les médias syriens disent que les forces gouvernementales sont entrées dans Deraa al-Balad et ont hissé le drapeau national dans ce district. Selon l'agence de presse officielle Sana, les troupes syriennes ont installé plusieurs postes de contrôle et nettoyé toute la zone. Des semaines d'affrontements entre l'armée syrienne et des groupes terroristes ont incité la Russie à négocier une trêve entrée en vigueur le 1er septembre. Selon les termes de l'accord, les groupes terroristes doivent soit quitter Deraa al-Balad, soit remettre leurs armes à feu s'ils choisissent de rester. Des dizaines de personnes ont déjà été transportées en bus vers un autre territoire sous contrôle des terroristes dans le nord de la Syrie. Les talibans ont nommé mardi les principaux ministres de leur gouvernement, dirigé par Mohammad Hassan Akhund, 3 semaines après avoir pris le contrôle du pays, y compris la capitale Kaboul. Lors d'une conférence de presse, Zabihullah Mujahid, le porte-parole des talibans, a déclaré que Hassan Akhund a été nommé premier ministre par intérim, tandis que le cofondateur des talibans, le mollah Abdulghani Baradar, sera le vice-premier ministre par intérim et que Sarajeddin Haqqani a été nommé ministre de l'Intérieur par intérim. Mujahed a déclaré que d'autres ministres du gouvernement intérimaire seront annoncés en temps voulu. Plusieurs de ces personnes nommées figurent sur les listes de sanctions des États-Unis et de l'Organisation des Nations Unies. Les talibans disent que leur gouvernement nouvellement nommé en Afghanistan respectera la loi de la charia dans toutes les questions de gouvernance et de vie. La haine, la xénophobie, l'islamophobie et la création d'un environnement favorable à la violence et à l'extrémisme sont les principaux défis pour établir une culture de paix, a déclaré l'ambassadrice et la représentante permanente adjointe de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies. La guerre, le terrorisme, l'extrémisme, la pauvreté et la discrimination, ainsi que l'unilatéralisme et les actions coercitives unilatérales, sont parmi les principaux défis du monde d'aujourd'hui, a déclaré Madame Zahra Ershadi. La représentante permanente adjointe de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a souligné que pour parvenir à la paix et à la sécurité internationale, les Nations Unies et ses États membres doivent adhérer au principe de la souveraineté égale de tous les pays, résoudre les différends internationaux de manière pacifique, s'abstenir de menacer, d'utiliser la force et d'intervenir dans les affaires essentiellement internes d'autres pays. La représentante de l'Iran auprès des Nations Unies a souligné l'engagement de l'Iran à respecter le multilatéralisme conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international comme le seul moyen de relever les défis internationaux. Les médias palestiniens ont rapporté que les forces israéliennes ont arrêté des membres de la famille des détenus palestiniens qui se sont évadés de la prison israélienne de Gilboa plus tôt cette semaine. Les rapports indiquent que les forces israéliennes ont pris d'assaut les maisons des 6 prisonniers qui se sont évadés en creusant un tunnel dans une des prisons les plus sécurisées d'Israël. L'évasion de ce type est une première depuis des décennies dans l'histoire de cette prison israélienne. Tel Aviv a ensuite lancé une chasse à l'homme massive pour arrêter les 6 Palestiniens. Le régime sioniste a mis en place des barrages routiers et déployé des véhicules de surveillance pour faciliter ses recherches. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah a qualifié cette évasion de grave échec pour les agences de sécurité israéliennes. Des groupes palestiniens ont également salué l'incident et l'ont considéré comme un gifle au régime israélien. Par ailleurs, dans une interview accordée à l'agence Anadolu, Hassan Abdarabo, porte-parole de l'autorité des affaires des prisonniers de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, a fait savoir que les autorités israéliennes avaient transféré tous les prisonniers de cette prison vers plusieurs autres prisons et placé la plupart d'entre eux dans des cellules d'isolement. Ces mesures punitives interviennent après l'évasion de 6 prisonniers palestiniens de la prison israélienne de Gilboa. L'évasion des 6 détenus de cette prison de haute sécurité a suscité une onde de choc dont les effets se sont fait sentir au niveau sécuritaire, politique et médiatique en Israël. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le commandant de la force Quds, affilié au corps des gardiens de la révolution islamique, a mis en garde contre un complot américain visant à opposer l'Iran, à majorité chiite, aux musulmans sunnites, soulignant la nécessité d'une solution pacifique à la crise en Afghanistan voisin, avec la participation de différents groupes dans la course au pouvoir dans le pays. Le général de brigade Esmaïl Rahani a assisté mardi à une séance à huis clos du Parlement iranien sur la situation en Afghanistan qui souffre d'un vide du pouvoir depuis la chute du gouvernement de Kaboul et la prise de contrôle du pays par les talibans. Informant les journalistes après la session, le porte-parole de la direction du Parlement iranien, Seyed Nezameddin Mousavi, a déclaré que le commandant de la force Quds avait fourni des informations précises et documentées avec une analyse pertinente sur les développements en cours en Afghanistan. Évoquant certains détails de la réunion, Mousavi a déclaré que la position de l'Iran est claire sur la base de ce que le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a souligné à plusieurs reprises, que l'Iran ne peut rester indifférent à ce qui se passe chez son voisin oriental. Les propos du général Rahani, a-t-il souligné, ont clairement indiqué que la République islamique d'Iran n'a pas été surprise par les développements dramatiques en Afghanistan et que Téhéran est en contact avec toutes les parties afghanes. Le principal intérêt de l'Iran en Afghanistan est d'assurer la sécurité et les droits des Afghans eux-mêmes et de ne pas permettre que la sécurité à ses frontières avec l'Afghanistan soit perturbée. Le général Rouhani a souligné que le peuple afghan, y compris les chiites, est important pour l'Iran en sa totalité et que Téhéran voulait un gouvernement inclusif à Kaboul avec la participation de différents groupes politiques et ethniques. Les talibans qui ont renversé le gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul le mois dernier, à la suite d'avancées militaires spectaculaires à travers le pays, n'ont pas encore annoncé la nouvelle structure du gouvernement. Le général Rouhani a déclaré que la présence américaine en Afghanistan n'avait rien à voir avec les attentats du 11 septembre 2001, à la suite desquels les États-Unis ont envahi le pays sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Le général Rouhani a déclaré que la défaite militaire américaine en Afghanistan était beaucoup plus importante que celle de la guerre du Vietnam. Le commandant de la force ROTS a déclaré que les États-Unis complotaient pour opposer l'Iran aux musulmans sunnites et que la République islamique d'Iran devrait donc empêcher les Américains d'atteindre cet objectif.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder l'arrivée de ce pétrolier iranien dans les eaux territoriales de la Syrie, ce pétrolier iranien qui transporte du pétrole pour le Liban. L'annonce avait été déjà faite par le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, qui avait fait part du départ de ce pétrolier iranien pour transporter du pétrole pour le Liban, le Liban qui se trouve actuellement dans un besoin urgent, si vous voulez, en la matière. Saïd Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, avait dit, en annonçant cette nouvelle, que ce pétrolier iranien serait considéré comme faisant partie de la souveraineté du Liban, sera considéré comme le territoire libanais, à partir de son départ de l'Iran. Ce pétrolier se trouve actuellement dans les eaux territoriales de la Syrie et le pétrole doit être acheminé de la Syrie vers le Liban. Et quelle en est l'importance de cet événement? Quelles en est les conséquences? On va aborder cela avec deux invités de l'émission d'aujourd'hui. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
Disons les choses comme elles sont, les deux pétroliers iraniens ayant traversé sans accroc le canal de Suez, sans que les pressions US-Israël puissent faire fléchir l'Égypte de Sissi et le pousser à leur barrer la route, omis sans ce dessus, dessous la Méditerranée. Ne pas les attaquer signifie que l'axe US-Israël s'est de lui-même rendu à Canossa, quitte à ne pas faire respecter ses sanctions pour cause de crainte d'avoir affaire face au Hezbollah qui a lancé l'un des plus grands défis de toute l'histoire de l'Empire à son adresse, à savoir la territorialisation d'un pétrolier qui apporte au Liban un pétrole supraconfessionnel. Ce qui fait que si ces pétroliers sont pris pour cible, cette mer méditerranéenne, souvent agitée, connaîtra sa première guerre. Kar. Soit dit en passant, personne n'a cru ces derniers mois aux querelles de clochers à caractère gazier, Turquie, Grèce, Chypre, ni non plus au sérieux de ses griffes et dents que Sa Majesté et son porte-avions Queen Elizabeth ont montré à la Russie, bien installée à Tartous et prête à en découdre avec n'importe quoi oserait mettre en cause ses intérêts. Ce mercredi 1er septembre, alors que le QG Hezbollah Iran planifiait l'accueil des trois premiers pétroliers iraniens de l'histoire à atteindre Beyrouth et à relier le golfe Persique à la Méditerranée et à ouvrir, comme dans le cas de Venezuela, non seulement un corridor maritime anti-sanctions US à caractère commercial, mais aussi un corridor potentiellement militaire, un incident, un de plus, s'est produit à Haïfa. La presse israélienne évoque un problème technique dans l'une des raffineries de Haïfa, propre à faire augmenter le niveau de la pollution, un problème lié au réservoir surmonté d'une liquide bizarre et des pompes trouées. Pour l'heure, la marine israélienne s'est retranchée sous les jupes de la 5e flotte US et simule son premier exercice naval conjoint en mer Rouge. Une attaque contre les pétroliers iraniens entraînerait le Hezbollah et l'Iran dans la guerre actuelle des navires qui fait rage dans les mers et les océans de la région. C'est une bataille que l'alliance américano-israélienne a définitivement perdue, surtout depuis l'attaque contre un navire israélien dans la mer d'Oman il y a un mois. La Grande-Bretagne a envoyé 60 de ses forces spéciales dans le gouvernorat d'Almara pour poursuivre les auteurs de cette attaque en accusant directement les Yéménites. Le premier ministre libanais désigné a été éloquent dans sa réponse aux critiques des expéditions de pétrole iranien lorsqu'il a déclaré « Donnez-nous une bougie, nous ne refuserons pas ces expéditions sans alternative. L'Iran veut aider le Liban, alors pourquoi vos alliés en Amérique et dans le golfe Persique n'ont-ils pas fait de même au cours de 6 derniers mois de la crise écrasante ?» Une chose est sûre, le Hezbollah sera le grand gagnant de l'initiative iranienne et Israël, le grand perdant, qu'il ose attaquer ou pas.
Merci, merci beaucoup d'avoir choisi cette émission. Pour entamer notre débat, nous allons partir tout de suite à Damas, capitale syrienne, pour rejoindre un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnon Devollet. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous et bonjour à votre invité.
Merci beaucoup. Maître Devollet, comment analysez-vous l'arrivée de ce pétrolier iranien dans les eaux territoriales syriennes, ce pétrolier dont le pétrole doit être acheminé de la Syrie vers le Liban?
Eh bien, écoutez, je crois que le moment de vérité approche. De toutes les manières, le Liban n'est pas dans une situation enviable, quels que soient les paramètres qui sont pris en compte. Soulager les pénuries, que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit dans les stations de service. On a appris en plus de ça que des personnes, des individus en fait conservaient des stocks pour les vendre à prix d'or. Et dans ce contexte-là, il est hors de question que le peuple libanais en subisse les conséquences. Donc, dans la mesure où les Américains ont maintenant avoué, suite à l'annonce faite précédemment par le Sayed Nasrallah, que l'Iran était prêt et disposé à délivrer du crude, la question ne se pose pas. C'est une question de vie ou de mort. Donc maintenant, la question va de savoir, au niveau logistique, comment cela va se traduire. J'ai cru comprendre que le premier pétrolier allait arrimé à Banias, que la cargaison serait ensuite déchargée dans des tankers, donc je suppose sur roue, et acheminée. Alors après, c'est la vraie question, c'est dans quel contexte, par quel biais, visiblement ce sera par voie terrestre, mais n'oublions pas que la frontière syro-libanaise maintenant est absolument perclue de tours électroniques de surveillance installées depuis maintenant quelques temps par les Britanniques. ces derniers donc s'affairent à essayer de contrôler et d'intercepter tous les échanges et toutes les communications qui peuvent avoir lieu dans cette région hautement sensible, et que sur cette base-là, il sera intéressant de voir si des tentatives d'interception ne seront pas à l'ordre du jour. Si c'était le cas, on peut s'attendre au pire, parce qu'il n'est pas question, encore une fois, de laisser la population libanaise sans recours, que les promesses faites par les Américains, de toutes les manières, non seulement sont des promesses fondées sur une mauvaise foi patente, mais quant à leur implémentation, de toutes les manières, on parle de plusieurs mois, puisqu'il faudrait solliciter des votes dans plusieurs forats législatifs, des autorisations, dont celle de la Banque mondiale. Ça prendrait quelque part 18 mois, d'après ce que les experts semblent mettre en avant. Et le peuple libanais n'a pas 18 mois. Maintenant, il est certain que la situation est certes différente de celle du corridor maritime établi entre l'Iran et le Venezuela, parce que là, les Israéliens sont effectivement directement, si je puis dire, concernés, dans le sens où, selon eux, pour permettre par le biais du Hezbollah, de la façon dont eux voient les choses, pour l'Iran d'engranger un capital politique énorme au Liban, serait une catastrophe totale pour les Israéliens. On peut penser qu'ils sont en train de faire le maximum pour peut-être coordonner avec les Américains des opérations d'interception dans la région du canal de Suez. Il y a des rumeurs qu'un groupe de navires a quitté les États-Unis hier et se dirige dans la région. Je ne pense pas que ce soit pour admirer le paysage, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette situation, de manière générale, se développe. Nous verrons d'ici les prochaines semaines, puisque de toute façon, les trois pétroliers ne sont supposés qu'être que le début d'un convoi maritime, comme vous l'avez dit vous-même, qui relierait le golfe Persique à la Méditerranée. Et nous verrons dans ce contexte-là ce que les Américains et les Israéliens concocteront pour essayer d'interrompre ce flot énergétique.
Merci beaucoup. Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, vient de nous rejoindre en ligne depuis Bruxelles pour cette émission. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à Maître Devolé. C'est toujours un plaisir de le voir.
Luc Michel, et de vous, quelle analyse portez-vous sur cet événement, c'est-à-dire l'arrivée de ce pétrolier iranien en Syrie, dont le pétrole doit être acheminé vers le Liban, et il va y avoir, selon des informations, d'autres pétroliers iraniens qui vont en fait se diriger vers en fait la région de Méditerranée pour acheminer, si vous voulez, du carburant, de pétrole, diesel, essence pour le Liban, pour le peuple libanais.
Moi, je vais élargir le sujet parce que le pétrolier, c'est un exemple de ce qui se passe. Il faut tout d'abord prendre deux données en cause, tout savoir la situation du Liban. Le Liban est victime d'une tentative de changement de régime des Français et des Américains, ce qu'on appelle un régime change. Il y a tout d'abord eu la guerre économique, c'était la loi César qui empêchait la reconstruction américaine donc, de la Syrie, mais qui frappe au cœur les économies libanaises et irakiennes. Deuxièmement, on a transformé le mécontentement en tentative de révolution de couleur, comme il y avait eu la soi-disant révolution du Cèdre en 2005. Troisièmement, l'explosion du père de Beyrouth, elle a permis aux Américains et à Macron de s'engouffrer dans la brèche et de tenter de renverser la majorité politique existant au Liban et d'établir un gouvernement de techniciens liés à la France et au Fonds monétaire international. Enfin, il y a une quatrième chose. C'est le raid qui est mené par les réseaux de George Soros et l'Élysée et le Quai d'Orsay pour tenter de faire sauter la banque du Liban sous prétexte de biens mal acquis. C'est l'affaire de biens mal acquis qui était ouverte comme Riyad Salamé, le gouverneur de la banque du Liban. Face à tout cela, le bloc de l'Est, mais en particulier l'Iran, y répond par une guerre asymétrique. Vous savez qu'on parle partout de la guerre hybride actuellement, parce qu'elle a été définie comme la principale menace par l'OTAN occidentale. Qu'est-ce que c'est la paix hybride ? Ça permet à des puissances pauvres comme la Russie ou comme l'Iran de réagir et de mener des opérations en deçà de la guerre. Les Russes se souviennent qu'ils ont perdu la guerre froide et l'Union soviétique a implosé parce qu'ils ont été pris dans la course aux armements et l'affrontement classique, cela n'arrivera plus. Mais il faut savoir que la guerre asymétrique, elle a été inventée par l'Iran, pas par la Russie. La Russie l'a théorisée en 2013, mais en 2006, dans la guerre du Liban, justement, la guerre entre le Hezbollah et Israël, c'était la première guerre asymétrique. La guerre asymétrique, l'histoire du pétrolier, etc., elle vise justement à dynamiter la guerre économique classique, c'est-à-dire à combattre les sanctions, à combattre également le mécontentement organisé par la population. Donc c'est quelque chose d'important. L'Iran actuellement mène une série de procédures. Le fameux corridor qu'on appelle Caracas-Téhéran, mais qui passe par Dakar au Sénégal, pour combattre la participation à l'OPEP du gaz avec les Russes, avec les Vénézuéliens, mais aussi avec les Équato-Guinéens de Malabo. C'est toutes des opérations qui sont en train de changer la face de la confrontation entre les blocs. Certes, il y a encore une confrontation maritime classique entre les marines russes et iraniennes alliées et les marines de l'OTAN, mais dans tous les autres domaines, c'est la guerre asymétrique. L'Iran est en train de très bien jouer. Il faut soutenir évidemment ses initiatives parce que c'est capital. Il ne faut pas se laisser enfermer dans la guerre classique dont le premier but est d'épuiser les adversaires du bloc américain pendant qu'eux s'enrichissent. Il faut au contraire dynamiter tout cela. Ça, c'est le rôle de la guerre asymétrique, de la guerre hybride, et c'est ce que l'Iran est en train de mener au Liban.
Et maître de volée, Luc Michel était avance. Et cette idée de la guerre asymétrique, vous l'avez dit, voilà, il y a en ce qui concerne cette affaire du transfert du pétrole iranien vers le Liban, si vous voulez, le rôle que pourraient jouer les Israéliens, si vous voulez, dans ce domaine. Et Seyed Hassan Nasrallah, je viens de le dire tout à l'heure en début d'émission, avait dit que voilà, que ce pétrolier était considéré comme le territoire libanais. Et ce pétrole est considéré comme faisant partie de la souveraineté de Liban. Là, il s'agit en fait d'une question du prestige et de la de crédibilité de la résistance libanaise également. Pensez-vous que le régime israélien osera intervenir directement, militairement, pour empêcher l'acheminement du pétrole iranien de la Syrie vers le Liban?
Je ne le pense pas, parce que prendre une telle décision reviendrait à s'exposer eux-mêmes en ce qui concerne leurs besoins énergétiques et leurs infrastructures. On sait que la résistance a amplement les moyens de réduire à néant, si je puis dire, les acheminements en gaz et en pétrole de l'État sioniste, que le site Léviathan et autres installations au large des côtes israéliennes sont parfaitement en ligne de mire. Et donc, ce serait, pour ainsi dire, du tac au tac. Est-ce que les Israéliens seraient prêts à risquer cela dans un conflit ouvert? J'en doute profondément. Les calculs, non seulement sur ce dossier, mais sur des dossiers de nature régionale, ne plaident pas en cette faveur. Maintenant, ça n'empêche pas que, comme l'a dit Luc Michel, nous puissions assister à des opérations de guerre secrète, de sabotage, avec de la pose de mines magnétiques sur tel ou tel bâtiment. Et puis, encore une fois, il faudra voir si l'axe donc américano-sioniste décide peut-être de prendre le problème, selon eux, en amont, et d'essayer de faire pression sur l'Égypte afin que cette dernière, de manière où elle puisse nier de manière plausible un problème quelconque, rendre inaccessible le canal de Suez. C'est une possibilité aussi. Mais encore une fois, les évolutions en ce qui concerne les alliances et les discussions qui ont pu avoir lieu récemment, par exemple à Bagdad, laissent entendre que l'Égypte ne sera peut-être pas forcément réceptive à ce genre de pression, parce que sur le long terme, ce n'est pas dans son intérêt, et que la dernière chose que le pouvoir au Caire souhaiterait assister, c'est d'être plus ou moins tenu comme co-responsable de, comment dirais-je, d'affamer le peuple libanais. Donc, dans ce contexte-là, ça va être une guerre des nerfs, une guerre secrète, une guerre d'anticipation, une guerre complètement hybride, effectivement, et asymétrique, mais qui, de toute façon, doit être menée, puisqu'il s'agit vraiment de questions hautement humanitaires. On sait que, de toute façon, le régime de César est illégal, primo facie, hein, on its face, comme on dit. Il n'a aucune légitimité au sein de la communauté internationale, celle-ci bien comprise. Et dans ce contexte-là, l'opinion publique, de toute façon, n'est pas en faveur de voir des efforts déployés pour empêcher des besoins les plus élémentaires de parvenir à ceux qui en ont le plus besoin.
Luc Michel, êtes-vous d'accord, si j'ai bien suivi en fait Maître de Voli, il dit voilà que la résistance libanaise a les moyens de sa politique, et plus précisément, et d'après vous, est-ce que l'axe de la résistance, l'Iran, la Syrie et le Liban en l'occurrence, a-t-il les moyens de sa politique, et en l'occurrence toujours en fait cette question du transfert du pétrole iranien vers le Liban?
Bien entendu, l'axe de la résistance a les moyens, mais il y a surtout des conditions qui sont propres à Israël. Israël vient de changer de majorité, et donc une des raisons de la majorité, c'était les risques de guerre avec le Likoud et Netanyahou. Et donc, ils ne peuvent pas se précipiter dans une guerre. Les gens du Likoud sont en embuscade. Il ne faut pas oublier que la nouvelle majorité israélienne, c'est une majorité contre nature qui va depuis des partis arabes islamiques jusque des partis d'extrême droite. La seule lien, c'était d'éliminer Netanyahou. Deuxièmement, les Israéliens sont dans une opération de séduction aux États-Unis. Vous savez que jusque-là, il y avait une alliance étroite entre le Likoud et Donald Trump. Et les Républicains avaient véritablement likoudisé l'AIPAC, le lobby pro-israélien. Cela s'est terminé. Maintenant, Israël a besoin, bien entendu, de Joe Biden. Elle est obligée de prendre des gants avec les démocrates, avec la nouvelle administration. Elle ne se ruera pas dans une guerre. Et troisièmement, il y a ce qui existait déjà, c'est-à-dire que l'armée israélienne a peur des conséquences. Je vous expliquais que l'OTAN, il y a une véritable obsession de la guerre hybride. Il y a un rapport du Pentagone qui est sorti il y a quelques mois, il y a un livre qui est sorti, il y a toute une campagne contre les médias, Presse TV, Afrique Média, moi-même, je suis cité dans ce rapport du Pentagone. La guerre asymétrique, elle est définie comme la principale menace contre les armées de l'OTAN et leurs alliés. Et dès lors, les Israéliens ont très peur d'une confrontation militaire. Ils ont été échaudés par la courte guerre à Gaza et en Cisjordanie, il y a quelques semaines, contre les Palestiniens, qui s'est très mal passé pour eux, et ils craignent évidemment une confrontation directe avec le Hezbollah. Le Hezbollah, qui est ce qu'on appelle justement un élément clé de la guerre asymétrique, c'est-à-dire que la guerre asymétrique, elle est menée par l'Iran et la Russie, par des acteurs non étatiques. C'est-à-dire que les conséquences diplomatiques qui seraient celles d'un affrontement entre États et entre armées n'existent pas dans la guerre asymétrique. Donc les gens de l'OTAN comme les Israéliens sont tout à fait perdus dans cette configuration. Ça explique leur panique, ça explique toute la gesticulation autour de cela. Et l'Iran, évidemment, il a saisi très intelligemment l'histoire pour aider le peuple libanais.
Maître de Volet, nous avons une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît.
Oui, mais je pense que cette séquence peut être un tournant majeur dans cette stratégie de siège économique. Les deux, trois prochaines semaines seront à mon avis vitales, et on peut espérer que les choses vont tourner, parce que de toute façon la situation n'est plus tenable. Les tensions sont à leur extrême, les peuples de la région sont fatigués, et c'est une situation, je pense, où dans l'absolu la résistance n'a absolument rien à perdre et tout à gagner.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Volet, d'avoir été avec moi pour cette émission par Skype depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, des géopoliticiens belges spécialistes des questions internationales, d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, à bientôt. Très bientôt.
Les banques européennes sont toujours aussi friandes de paradis fiscaux. Les paradis fiscaux attirent toujours les banques du vieux continent. L'Observatoire européen de la fiscalité a publié le 6 septembre une étude démontrant que la plupart des banques européennes restaient solidement implantées dans les paradis fiscaux, justifiant leur présence en raison de leur importance. Malgré plusieurs scandales sur l'imposition des multinationales, les banques européennes n'ont pas réduit leur présence dans les paradis fiscaux ces dernières années, selon une étude publiée le 6 septembre. Elles se défendent en affirmant déclarer leurs bénéfices dans les pays où ils sont réalisés. L'Observatoire européen de la fiscalité, bureau de recherche indépendant hébergé à l'École d'économie de Paris, observe que les principales banques européennes enregistrent chaque année 20 milliards d'euros, soit 14 % de leurs bénéfices totaux, dans 17 territoires à la fiscalité particulièrement favorable. Ce pourcentage est resté stable depuis 2014, malgré plusieurs scandales ayant révélé les pratiques douteuses des multinationales pour échapper à l'impôt. Malgré l'importance croissante de ces questions dans le débat public et dans le monde politique, les banques européennes n'ont pas réduit de manière significative leur recours aux paradis fiscaux, affirme cet organisme qui est financé par la Commission européenne et dirigé par l'économiste français Gabriel Zucman, qui dirige l'Observatoire et qui est hébergé à l'École d'économie de Paris. L'Observatoire a passé en revue les données publiées par 36 établissements financiers sur la période 2014-2020. Il identifie 17 États et territoires comme des destinations privilégiées, parmi lesquelles les Bahamas, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Jersey et Guernesey, Gibraltar, Hong Kong, Macao, Panama ou encore les États membres de l'Union européenne que sont Malte et le Luxembourg. Les bénéfices comptabilisés dans les paradis fiscaux sont anormalement élevés. 238 000 euros par employé contre 65 000 euros dans les autres pays. Cela suggère que les profits enregistrés dans les paradis fiscaux sont essentiellement déplacés depuis d'autres pays où a lieu la production de services, estiment les experts de l'Observatoire. Parmi les grandes banques, ils identifient HSBC comme la championne de ces pratiques. Plus de 62 % de ses bénéfices avant impôt ont été comptabilisés dans des paradis fiscaux entre 2018 et 2020, contre 49,8 % pour l'italienne Monte dei Paschi, BMPS, qui arrive en deuxième position. Standard Chartered, 29,8 % complète le podium. Les Allemandes, Deutsche Bank et NordLB arrivent en quatrième et cinquième position, respectivement. HSBC est la plus grosse banque à Hong Kong avec 30 000 employés et du fait de notre héritage, de la taille des opérations et de la stratégie, une proportion significative des bénéfices du groupe continue de se réaliser ici, s'est défendue la banque britannique. Son homologue Standard Chartered a déclaré ne pas transférer artificiellement ses bénéfices dans des pays faiblement imposés. Nous avons une activité mondiale et nous opérons commercialement à la fois dans des juridictions à forte et faible imposition, a déclaré le groupe. Deutsche Bank rappelle pour sa part que sur les 60 pays dans lesquels elle opère, aucun n'est présent sur la liste européenne des pays non coopératifs. Elle ajoute que ses bénéfices sont taxés là où ils sont réalisés. Du côté des établissements français, la Société Générale, qui n'a pas souhaité donner de commentaires, est la plus exposée avec 13,8% de ses profits dans les paradis fiscaux. Ses compatriotes Crédit Agricole et BNP Paribas pointent respectivement à 11,5% et 6,9%. Mais les trois groupes ont réduit leur activité dans ces pays par rapport à la période 2014-2016, selon le bureau d'études. Les scandales LuxLeaks en 2014, puis Panama Papers ont placé le sujet de l'évasion fiscale sur le devant de la scène et provoqué un durcissement des obligations de transparence financière. Des négociations sont justement en cours au sein de l'OCDE, l'Organisation de développement et de coopération économique, pour appliquer un taux maximum de 15% pour les multinationales afin de lutter contre les paradis fiscaux. L'Observatoire estime qu'un taux minimum de 15% d'imposition sur les banques permettrait de générer 3 à 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour les pays européens. Ces chiffres tripleraient pour atteindre 10 à 13 milliards avec un taux de 25%. L'Observatoire s'attarde sur le cas de la Banque de la Défense en République tchèque pour signaler que le groupe, qui détient une filiale KB, y réalise presque autant de profits qu'en France, tout en n'y employant que 7% de ses effectifs. Avec un taux de 17% contre 26% en France, ce pays n'est pas considéré comme un paradis fiscal. Mais son utilisation comme destination fiscale par Société Générale signifie que les banques peuvent tirer avantage d'autres pays européens où l'imposition est plus faible, écrivent les auteurs de l'étude. La part des bénéfices réalisés par les banques françaises dans des paradis fiscaux a néanmoins baissé depuis 2014. Selon l'Observatoire, le déficit fiscal pour l'État français, calculé sur la base d'un impôt minimum de 15%, était estimé en 2020 à 343 millions d'euros, contre 490 millions 6 ans plus tôt. Un premier accord au G7 début juin à Londres avait donné un coup de fouet aux négociations enlisées pendant la présidence de Donald Trump et relancées par l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les pays du G7 se sont mis d'accord sur un impôt mondial minimum sur les bénéfices des sociétés d'au moins 15%. Cet accord marque une étape décisive dans la lutte engagée par la communauté internationale contre l'évasion fiscale des multinationales et en faveur d'une répartition plus équitable des impôts payés par les géants du numérique, dont les GAFA. De même, les pays du G20 ont adhéré au cadre général de la réforme sous l'égide de l'Organisation de développement et de coopération économique, OCDE. Le 1er juillet, mais ils doivent désormais afficher un accord politique pour l'endosser. Les ministres des Finances du G20 doivent approuver cet accord historique sur une architecture fiscale internationale plus stable et plus équitable. Négociée depuis des années, cette réforme porte sur deux piliers. L'instauration d'un taux minimal mondial et un système visant à répartir de manière plus juste l'impôt sur les multinationales en fonction des bénéfices réalisés dans chaque pays, indépendamment de leur établissement fiscal. Ce dernier volet concerne surtout les géants d'Internet, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, enclins à pratiquer l'optimisation fiscale en établissant leur siège là où l'imposition est la plus faible. Les ministres devraient aussi adresser un appel aux pays récalcitrants, la déclaration ayant été signée jusqu'à présent par 131 des 139 membres du groupe de travail dit du cadre inclusif de l'OCDE, qui réunit pays avancés et émergents. Mais est-ce vraiment la fin des paradis fiscaux? Certains experts, comme Julian Nonocci, professeur de stratégie à l'École polytechnique de Milan, restent sceptiques. Les taux fiscaux par les différents pays peuvent toujours sensiblement varier et l'optimisation fiscale restera donc au cœur de la stratégie des géants de la technologie et des autres multinationales, a-t-il déclaré.
Mm-hmm.